Oui, effectivement, je crois que si on... Alors, je vais brasser vraiment à grands traits assez rapidement, alors, et peut-être avec des slogans un peu ramassés, caricaturaux, ce qui me semble le plus important sur l'évolution de ces 25 à 30 dernières années des espaces ruraux. Et vous avez raison, je crois qu'il faut commencer par ces mouvements démographiques et de population, parce qu'il me semble que c'est ce qui a le plus contribué à transformer la physionomie des campagnes françaises. Et donc, je commencerai par là. Mais je crois qu'il faut voir après ce que cela a induit en termes d'évolution des activités économiques, de la place de l'agriculture dans ces espaces ruraux, et puis sur quels enjeux et quels débats, en termes de perspectives, cela ouvre. Alors effectivement, le premier point sur la démographie, c'est ce que vous dites, c'est cette renaissance depuis les années 80.
Approchez-le encore un
Ce
peu.
qui est à l'œuvre, c'est cette renaissance démographique, ce que Bernard Kayser avait appelé la renaissance des campagnes françaises dès les années 90. Et globalement, premier slogan, effectivement, le fait qu'on est plutôt passé de l'exode rural à l'exode urbain, et plus précisément, effectivement, vous avez raison de le dire, à l'étalement urbain de population dans les campagnes. Bon, encore une fois, sans vous abreuver de chiffres, mais bon, pour en donner un exemple, en 10 ans, sur une période de 10 ans, vous avez en moyenne 4 millions d'urbains qui partent vivre à la campagne, et vous avez toujours dans l'autre sens un mouvement d'exode rural qui se poursuit, mais qui est de l'ordre de entre 1,5 et 2 millions, plutôt 1,5 aujourd'hui, de ruraux qui quittent leur lieu d'habitation rurale pour vivre en ville. Donc on est vraiment dans une inversion des flux démographiques qui est importante. Alors ce phénomène, il est global, mais il touche d'une façon très différenciée les campagnes françaises quand même. Bon, on le sait qu'il a d'abord été porté par... Et il a d'abord touché les campagnes les plus proches des villes, c'est évident, hein. Mais cette notion de proximité des villes est allée justement en s'agrandissant et en s'étalant, puisque vous prenez aujourd'hui le cas, mettons, d'une grande ville comme Toulouse, où ce phénomène concerne des communes rurales, il y a une vingtaine d'années, considérées comme très rurales, isolés de l'Ariège ou autre, à 60 km de Toulouse, et qui sont en plein regain démographique. Pour prendre un exemple, on pourrait les multiplier par ailleurs. Bon, cela a touché aussi ce qu'on peut appeler les campagnes agréables, les paradis verts, qui attirent des populations. Mais il ne faut pas oublier qu'on peut estimer que de l'ordre d'un quart des communes rurales aujourd'hui en France, hein, ou des bassins de vie ruraux, continuent à se désertifier, continuent à être principalement touchés par de l'exode rural, et en bénéficient peu, et cela, il faut le dire. Ça concerne principalement ces régions, le nord-est de la France, le centre Bretagne, des zones de montagne enclavées, etc. Donc, c'est un phénomène global, mais il y a une différenciation importante. Alors, ce phénomène, il est révélateur, parce qu'il faut aller dans les mécanismes, si on veut les discuter ensuite, il est révélateur, en gros, d'un nouveau modèle sociétal de vie, hein, qui est un modèle, en gros, pour une certaine partie de la population des pays développés, et particulièrement en France, de vivre à la fois la ville où on travaille et la campagne où on réside. Bon. Puisque la très grande majorité de ces flux de population vers les campagnes et d'installation dans les campagnes sont le fait de jeunes couples installés professionnellement et qui commencent à avoir des enfants. En gros, le modèle, c'est le couple 30-35 ans, jeunes actifs, avec un ou deux jeunes enfants. C'est eux qui portent principalement cela. Cela se traduit par des déplacements quotidiens, domicile-travail, sur lequel on pourra revenir justement dans les problèmes que cela pose, hein, entre ville et campagne. Cela se traduit aussi par le fait que ces installations à la campagne assez importantes se réalisent pour l'essentiel à 80% par l'accession à la propriété. Donc, ce qui veut dire que ce mouvement est aussi porté principalement, je dirais, par des ménages de type couche classe moyenne et classe populaire aisée, ayant la possibilité d'accéder à la propriété. Il n'est pas porté par les cadres supérieurs et les professions les couches les plus aisées de la société. Il est vraiment porté par ces classes moyennes, salariées en principal, et classes populaires qui peuvent accéder à la propriété. Cela aussi, il faudra le prendre en compte, parce que ces catégories de ménages peuvent être très directement et sont très directement concernées par l'évolution de la conjoncture économique dans la société. Alors,
Un mot peut-être. Là, vous avez donné une vision globale. Effectivement, il y a des contrastes régionaux. Nous allons y revenir. Peut-être vous pourriez également tout de suite nous dire si l'exode rural continue quand même, l'exode notamment agricole. Où en sommes-nous maintenant dans la répartition entre ces nouvelles populations résidentes et les populations agricoles, d'origine?
Oui, mais je vais y venir peut-être justement en le précisant avec la caractérisation des différents types d'actifs et de personnes qu'il y a dans les campagnes. Mais ce que je voulais dire, mais je prends votre question, c'est qu'il y a, en termes de catégories, derrière ces mouvements de jeunes couples, donc actifs, salariés, hein, nouveaux, le terme néo-rural ne me plaît pas trop, enfin nouveaux ruraux, quoi. La deuxième catégorie est celle de retraités urbains, alors qui peuvent être d'origine rurale au départ, qui s'installent à la campagne. Leurs logiques de localisation ne sont pas exactement les mêmes. Et puis vous avez un certain nombre de flux, en termes de composition, je dirais, entre guillemets, plus anecdotique, mais qui, dans certaines localités, puisque c'est très différencié, marque le territoire et les campagnes. Ce sont l'installation d'étrangers, bon, le modèle des Anglais dans le Périgord est connu, le modèle des Suisses en Bresse est connu, etc., mais qui, sur certaines localités, certains bassins de vie, sont à prendre en compte parce que ça modèle le paysage. Alors, ce processus, et je vais revenir sur, en termes d'emploi et par rapport à l'agriculture maintenant, il est source effectivement de vitalité, puisque, ça je vais le développer, il a été porteur d'une certaine dispersion des populations, d'un meilleur étalement des populations sur l'ensemble du territoire, et il a induit, et il continue à induire des emplois liés à la présence des populations dans les territoires ruraux, dans les campagnes et autres. Bon, mais on le verra aussi, ce processus, ce modèle de vie, il est aussi coûteux socialement et écologiquement, et j'y reviendrai aussi si on discute sur les problèmes et en termes de perspectives. Alors, en termes de différenciation, je dirais en termes de personnes qui vivent dans les campagnes aujourd'hui, on peut le voir aussi en termes de type d'emploi et en termes de vitalité économique des campagnes, parce que cela va nous donne une image un petit peu justement assez différenciée de ces espaces ruraux. Et là, je vais faire, en termes de vitalité économique, je vais m'appuyer sur l'analyse qui avait été faite par l'INSEE, la DATAR et l'INRA il y a quelques années en termes de bassins de vie. En gros, ils avaient distingué toute la France rurale en 1700 bassins de vie. C'est de la taille du canton, de deux cantons, de trois cantons. Hein, cela varie, mais enfin, c'est autour du pôle du bourg rural avec l'organisation justement sociale et économique de ces... Et quand on regarde ce que ça donne en termes de population et d'emploi dans ces bassins de vie ruraux, ça me paraît assez important. Je crois qu'il y a trois choses à dire. Premièrement, effectivement, c'est principalement l'économie résidentielle qui tire les activités économiques, qui tire l'emploi en milieu rural aujourd'hui, que l'on soit dans des campagnes périurbaines et même dans du rural isolé. Je ne vais pas l'expliquer. Deuxième chose, le rural, les bassins de vie ruraux restent plus ouvrier et plus industriel qu'on ne le pense et qu'on ne le croit et auquel on accorde peut-être une attention très très secondaire dans le discours. Et troisième chose, alors là je vais peut-être un peu provoquer une assemblée qui est principalement en fait de gens du monde agricole, sur le plan économique des emplois et de la population présente, l'agricole ne fait plus le rural. bon, mais, j'y reviendrai, le monde agricole réussit toujours à mettre en valeur, à occuper le territoire rural. Alors, je m'explique un petit peu sur ces 1700 bassins de vie, sur lesquels justement une analyse est faite. Sur ces 1700 bassins de vie aujourd'hui, quand je dis que c'est l'économie résidentielle qui tire principalement, c'est-à-dire que les analyses ont montré que dans 1000 à peu près, hein, c'est très à la louche hein, ce que je donne, à peu près dans un millier sur les 1700 bassins de vie, donc la majorité, ce sont principalement des emplois liés à ce qu'on appelle l'économie résidentielle, donc des emplois assumés par donc l'économie résidentielle, c'est l'ensemble des activités liées à la présence de populations locales, santé, éducation, services, transport, commerce, enfin, etc. Hein, liés à la, bâtiment pour ce qui est de la bâtiment. Bon. Donc c'est excessivement important, et y compris en termes de maintien, par exemple, de commerce. Bon, effectivement, on a tout un ensemble de petits commerces qui ont disparu, mais dans le même temps, il faut dire que il y a eu une concentration sur les bourgs et les pôles ruraux et des créations d'emplois dans ces secteurs qui font qu'on est sur des bilans aussi positifs de ce point de vue-là. Donc ça, c'est le premier aspect. Et donc, cette vitalité économique dépend de flux de population, évidemment, résidentielle, dépend de la poursuite de ces flux de population. Et ce sont des emplois très souvent assurés par des... en partie assurés par des gens qui sont originaires du milieu rural et qui sont restés. Ce n'est pas simplement des extérieurs qui viennent travailler. C'est en partie le cas, mais ce sont aussi des emplois, des opportunités d'emploi pour des locaux de souche et autres. Alors, deuxième aspect, c'est sur l'emploi industriel. Je l'ai dit, effectivement, le rural et rester plus industriel et plus ouvrier qu'on ne le croit, et je crois qu'il faut le dire. Alors, encore une fois, sur mes 1700 bassins, nos 1700 bassins de vie, vous en avez un peu moins de 500, hein, pour donner un ordre de grandeur, 490, qui sont principalement tirés par l'activité industrielle, par les emplois industriels, par des spéciations. Et autre chiffre pour le dire, aujourd'hui dans les campagnes, l'ensemble rural, périurbain et rural plus éloigné, vous avez trois fois plus d'ouvriers que d'actifs agricoles. Et, élément supplémentaire, les emplois industriels ont moins régressé en milieu rural en France dans les 25 dernières années que en milieu urbain ou à la périphérie des villes. Et ceci pourrait apparaître comme un paradoxe parce que ces emplois industriels sont principalement des industries de main-d'œuvre, donc les plus sensibles à de potentielles délocalisations vers des territoires encore beaucoup plus éloignés et à faible coût de main-d'œuvre.
Alors, vous venez de nous donner quelques éléments démographiques à la fois sur ce repeuplement des campagnes et puis sur la structure de la population active qui s'y trouve. Deux questions peut-être. D'abord, une réflexion pour l'économiste que vous êtes. Vous avez fait apparaître aussi un phénomène, c'est qu'autrefois, quand on essayait d'apprécier ce qu'était la prospérité économique, on abordait ça un peu comme étant la contribution au produit intérieur brut. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, le phénomène consommation, quand il se localise, devient un élément. Ça ne représente pas un ébranlement un peu intellectuel pour un économiste comme vous, ça ?
Vous savez, j'ai un de mes collègues qui s'appelle Laurent Davezy, vous auriez pu...
C'est à lui que je pensais en posant la question, oui.
Qui est devenu le spécialiste de cette chose. Et effectivement, en gros, un petit peu la rupture au niveau de nos analyses économiques des territoires qui se fait, c'est cette dissociation, elle est liée à cette dissociation croissante entre les lieux de production de la richesse, les lieux d'emploi, etc., et les lieux de consommation de cette richesse. Et le fait que vous ayez une part croissante des ruraux aujourd'hui qui consomment en partie dans le milieu, dans les espaces ruraux, etc., mais qui travaillent en ville, est un des éléments de cette dissociation croissante entre lieu de production de la richesse, lieu d'élaboration du PIB, à la limite, lieu de la valeur ajoutée, etc., et lieu de consommation. Ce que Laurent Davezy montre, c'est que dans certaines configurations, les régions de consommation, donc de la richesse, des dépenses, sont des régions entre guillemets. Entre guillemets, qui gagnent aujourd'hui en termes d'indicateurs d'emploi ou de démographie.
En tout cas, qui connaissent une prospérité
sur
la base de la consommation.
Et effectivement, le rural est concerné par ce processus. Quoi, en fait.
Alors, est-ce que l'observateur que vous êtes, un peu de ces mouvements démographiques, à travers les batteries d'informations qu'il recueille, a analysé aussi ce que sont les motivations qui font que la population qui était autrefois attirée par la lumière de la ville est aujourd'hui assez fascinée par l'ambiance de la ruralité. Qu'est-ce qu'il y a dans les comportements qui déterminent ces choix d'installation ? Qu'est-ce que vous avez recelé ? Alors, est-ce que ce sont les nouvelles technologies de communication qui font qu'on peut vivre dans le rural profond sans être coupé du reste du monde ? Est-ce que c'est une paix ? Est-ce que c'est la crainte du stress urbain ? Quels sont les facteurs ?
Alors, nous avions fait, là je m'appuyais sur une enquête que nous avions réalisée, bon, de la même façon avec la DATAR, hein, l'INRA et la DATAR, auprès d'un peu plus d'un millier de ménages français, alors à la fois ruraux, périurbains, urbains, etc., sur leur rapport au rural et leur motivation par rapport au lieu. Donc là, ça va, je pense, répondre à certaines de vos questions. Et ce qui est très frappant, c'est que d'une part, nous avions une population de ménages urbains, une population de ménages ruraux que nous enquêtions. Nous leur posions la même question inversée. Est-ce que dans les 5 années à venir, vous avez l'intention de quitter la ville pour aller vous installer à la campagne, pour y vivre, etc., et dans quel type ? Après, il y a plein de questions. Et réciproquement, pour les ruraux, nous leur posons la question, est-ce que dans les 5 années à venir, vous avez l'intention de quitter la campagne pour aller habiter en ville ? C'était au début des années 2000, 27% des urbains nous répondaient, ah oui, moi si je peux, je quitte la ville, je vais vivre à la campagne. Et de l'autre côté, 8% des ruraux seulement nous répondaient « Ah oui, moi, dès que je peux, je quitte la campagne pour aller en ville. » Bon, ça, c'est déjà un premier élément quantitatif. Après, quand on a interrogé les urbains sur les motivations pour eux d'aller vivre à la campagne, et quand on a interrogé les nouveaux ruraux sur pourquoi ils sont venus, ce qui ressort aujourd'hui, en 2000 en premier, c'est effectivement, ce sont les conditions de vie et le fait de fuir la ville, c'est-à-dire le fait de rechercher un environnement cadre de vie agréable pour l'éducation des enfants, pour avoir de l'espace dans une habitation pour laquelle ils n'auraient pas cet espace, bien sûr, ils ne pourraient pas se payer cet espace en milieu urbain. Mais ce sont essentiellement et d'abord et très massivement des critères de cadre de vie, de conditions de vie et de fuir la ville repoussante, pas sûre, dangereuse pour les enfants, etc. Et viennent très très loin derrière les réponses sur « c'est pour chercher du travail ». Ça vient très très loin derrière. Et vient aussi loin derrière la réponse « c'est pour retrouver mes racines, je suis originaire de cette région-là, etc. et j'ai envie d'y retourner ». Alors que 20 ans après, le même type de question avait été posée dans une enquête de mes collègues de Bertrand Hervieux et Jean Viard, et au contraire, l'aspect revenir sur les lieux où on habitait, etc., pour des urbains, était beaucoup plus important, l'aspect chercher du travail aussi. Donc on est vraiment dans une logique de aller vivre à la campagne. Oui, effectivement, c'est une logique de consommation, hein, de cadre de vie, hein, et ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on disait précédemment.